Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International en ce début de semaine et donc une semaine dans la planète football où nous commencerons aujourd'hui par ces Olympiens vainqueurs en championnat de France, tout comme Monaco et le PSG d'ailleurs. Résultat, aucun changement en haut du classement, mais avec un Marseille qui veut croire en Kostas Mitroglou, artisan de sa victoire, avec aussi Lyon qui doit apprendre à se passer de Nabil Fekir, et puis avec le PSG et ses états d'âme, les rumeurs aussi post-élimination. Je vous vois sourire. Bonjour Dominique Sévrac.
Bonjour, Annie, bonjour à tous, comment allez-vous?
Notre ami du Parisien. Il y a Marc Libra qui sourit un peu plus. Bonjour Marc.
Pas du tout, bonjour,
Marc,
à tous.
Le Marseillais. En tout cas, en zone relégable, là, il n'y a pas du tout de quoi rire. Lille sous le choc de la scandaleuse colère de ses supporters, ou supposait-elle. Le fiasco à Lille n'est pas seulement sportif. Manchester United bien accroché à la place de dauphin de City après sa victoire sur Liverpool dans le derby du week-end. Mais la bataille continue, il y a toujours 4 prétendants pour les 3 autres places européennes en Ligue des Champions, bien sûr. Mais là aussi, des violences en fin de partie, et cette fois sur la pelouse des Hammers. Et ça ne fait pas du tout sourire un supporter de cœur des Hammers. Salim Bongali, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et tous.
Ouais, je vous vois affligé, cher confrère de
ça fait du bien.
Sport. Les champions du monde de 98 de retour. Alors pas vraiment sur la pelouse, mais pour souffler 20 bougies. Et oui, cela fait déjà 20 ans. Une fête en perspective. Ils ont gagné des cheveux blancs, mais on les aime toujours, n'est-ce pas?
Bien
on
sûr,
les aime toujours.
Absolument.
Hein. Bonjour Olivier Pont.
Bonjour Annie Gasnier.
Lui aussi a gagné des cheveux blancs. Hein.
Ouais, mais j'étais pas loin de gagner la Coupe du Monde en 98 avec eux aussi.
Radio Foot, c'est parti.
Qu'on n'a pas vu depuis un peu plus d'un mois en Ligue 1. Petit match à Saint-Etienne, il est en jeu, Mitroglou.
Non, ça joue.
Oh, ça joue. Dimitri Payet qui va aller au bout pour Mitroglou. Ah, oui. Pour Mitroglou, ah, oui. Qui signe son retour avec ce but incroyable. Konstantinos Mitroglou va-t-il être le héros de l'OM?
Mitroglou, héros de l'OM, qui l'eût cru? Eh bien oui, Kostas Mitroglou, le grec, a signé le but de la victoire 35 minutes après son entrée sur le terrain.
35 secondes.
Surtout en radio, on sait ce que c'est la différence entre 35 minutes et 35 secondes. Donc, en quelques secondes, il a réussi à marquer un but. Il était rentré d'ailleurs en même temps que l'auteur de la passe décisive, à savoir Dimitri Payet. Et l'OM engrange une victoire méritée, mais surtout essentielle, à une semaine de recevoir Lyon sur sa pelouse. Les Marseillais vont-ils maintenant, peuvent-ils maintenant aussi compter sur leur attaquant grec? Adil Rami y croit.
Moi je suis super content parce que je pense être l'un des joueurs qui lui parle le plus à l'entraînement. J'essaye de perfectionner mon anglais pourri. Et je lui ai dit bon ben ta blessure c'était un mal pour un bien, parce que ça lui a permis, je pense, de lui refaire une deuxième préparation et de sentir un petit peu mieux physiquement. Donc j'espère en tout cas de tout cœur qu'il va nous aider et qu'on finira en Ligue des Champions, j'espère. Mais la route est longue.
La route est longue, mais on s'est beaucoup moqué de ce recrutement de Marseille. Finalement, Marc Libra, est-ce que Kostas Mitroglou, qui a inscrit son 4e but au soir de son anniversaire, hein, il a eu 30 ans hier, est-ce que finalement, peut-être que ça peut donner raison aux dirigeants de l'avoir choisi au moment où ils l'ont choisi?
J'avais annoncé en janvier que les deux plus belles recrues de l'Olympique de Marseille étaient Dimitri Payet et Kostas Mitroglou. Donc, on peut pas faire pire ce qu'ils ont fait sur les 6 premiers mois.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire avec les plus belles recrues, puisque...
ils ont pas joué. Ils ont été inexistants.
En début de saison?
Ouais, je suis un peu dur avec Payet, parce que c'est vrai qu'il a fait quelques matchs. Mais après, le Payet qu'on a vu sur jeudi soir et hier soir sur son entrée, il est totalement différent de ce qu'on a pu voir sur 6 mois. Donc, je pense que c'est, je vais appeler ça une Di Maria, puisque Di Maria est capable aussi pendant 6 mois de disparaître et de renaître quelques semaines après. Donc, pour Dimitri Payet, c'est depuis à peu près une semaine. Donc, il va apporter, je vous ai toujours dit sur ce plateau que j'ai jamais été inquiet pour les attaquants de l'Olympique de Marseille, puisque quoi qu'il arrive, il ne marquait pas, parce que rappelez-vous ce débat on a eu face à Germain. Oui, c'est inquiétant, Germain marque pas, Mitroglou marque, oui mais les autres marquent, les autres font la différence. Et encore une fois hier soir, ben pour une fois que ça tombe sur Mitroglou, qu'il est capable de marquer sur une superbe action, parce que tout
mais est-ce
très
que ça
bon
veut dire qu'il est parti pour être au niveau jusqu'à la fin de saison?
Je ne sais pas, c'est différent quand vous mettez Germain va, le match de Germain hier soir, les gens vont dire il a pas été bon, mais il fait beaucoup d'efforts, il travaille énormément,
il a pas de ballon juste,
mais il a pas forcément de ballon, mais il crée des brèches. Et là Mitroglou, lui, c'est quelqu'un quelqu'un qui va rester devant et qui va attendre. Regardez, le ballon, il met au fond et il est malheureux parce qu'il peut faire le doublé. Mm-hmm. La tête, elle est très bien faite, il décroise.
Après pour Salim. Mitroglou, alors on va évidemment pas s'emballer, on l'a suffisamment, on va dire, critiqué à juste titre, à tort, peu importe.
Oui, mais son ratio minutes jouées but est pas si mauvais finalement.
Après on pourrait presque aussi faire son ratio occasions ratées minutes jouées, hein, qui doit être aussi impressionnant pour Kostas Mitroglou.
C'est 18 matchs 8 buts quand même.
C'est vrai.
Aujourd'hui le ratio 18 matchs 8 buts, c'est quand même pas mal.
Le ratio est meilleur que pour Valère Germain par exemple.
Exactement. Mais,
et d'ailleurs hier, en tout cas en marquant ce but, il s'est aussi au final procuré deux autres opportunités, cette tête qui met sur poteau et même le lob qu'il tente à la fin, à la toute fin du match, s'il marque pas avant, il tente sans doute pas ce lob. Donc, on va dire qu'il y a peut-être un début de confiance chez lui. C'est très bien. On va évidemment pas s'emballer. Laissons-le déjà jouer un peu plus parce qu'on l'a vu au bout d'un quart d'heure, il était lessivé et c'est normal. Encore une fois, il revenait de blessure. On l'a vu à la fin. Les mains sur les jambes, sur les genoux. Enfin, il était totalement moisi. Donc, laissons-le revenir tranquillement et pourquoi pas lors de la prochaine rencontre.
Dominique, on a l'impression quand même que ses copains veulent aussi qu'il soit au top. Adil Rami, quand il dit j'essaye de le motiver à l'entraînement, on voit quand même que sur le terrain, alors en dehors de Rudy Garcia qui lui n'a pas le choix sur son banc, on a l'impression quand même qu'il y a un esprit d'équipe autour de lui.
Oui, tout à fait, il y avait eu la passe décisive de Dimitri Payet il n'y a pas longtemps dans un match au Vélodrome, il aurait pu marquer, il l'avait donné à Mitroglou pour le remettre un petit peu en confiance, c'était avant sa blessure. Donc on voit hier sur le visage d'un Maxime Lopez, encore une fois de Payet, on voit une satisfaction totale, donc effectivement il n'est pas lâché par ses coéquipiers,
c'est une solidarité, une compréhension, parce que on sait c'est que bien, des fois les buteurs ont des trous d'air.
On sait qu'ils marchent tous à la confiance et c'est bien que l'équipe lui montre ce témoignage d'affection, comme ça il va pouvoir revenir dans le jeu. Et ça, c'est vraiment très intéressant de voir que ses copains l'ont pas lâché, parce que c'est très facile dans un vestiaire d'ignorer celui qui est une erreur de casting. Bon, il a marqué contre Toulouse, qui doit être combien, 14e, il s'est encore marqué contre Toulouse.
Ils sont plus bas que ça, même.
Voilà. 17e. Mais 7e. Donc, on va pas, quand même pas s'emballer, hein, Kostas Mitroglou.
Il a marqué.
C'est 15 millions d'euros pour pas grand chose. Rudy Garcia voulait déjà le faire partir lors du dernier mercato d'hiver, il y a 2 mois. Donc, c'est un garçon qu'ils auront beaucoup de mal à revendre. S'ils sont pas dans les clous,
ils sont obligés de le garder.
Du fair play financier.
Je crois qu'il marque plus de buts dans ses sorties nocturnes que sur le terrain. Mais enfin bon, du moment qu'il en marque un de temps en temps, ça prête au débat. Voilà, c'est son 4e but finalement. C'est autant que Karim Benzema avec le Real en championnat cette saison.
Peut-être moins de passes décisives de son
mais
côté.
Les deux sont encore l'Europe. Ils font encore l'Europe, les deux d'ailleurs.
Oui, les deux regarderont la Coupe du Monde à la télé.
Marc, en tout cas, on a l'impression, on parlait beaucoup des limites de l'OM cette saison en disant, le problème de l'OM, c'est qu'ils n'ont pas de banc. Est-ce que le match d'hier soir et finalement certaines dernières prestations tendraient à démontrer le contraire? Peut-être que Rudy Garcia sait utiliser certains joueurs. Je pense à Bounassar qui a été plutôt remarqué.
Soir, ouais.
Voilà, et remarquable hier
à
soir.
Part sur le premier but.
Où effectivement il est un peu pris à défaut, mais sinon par exemple Sanson et Lopez qui sont pas titulaires tout le temps, même au Campos qu'on a beaucoup vu l'autre jour contre Bilbao, mais est-ce que finalement Rudy Garcia ne réussit pas à faire à élargir son groupe certains soirs
Ce que je trouve fort du côté de Rudy Garcia, c'est qu'il a été capable hier soir en tout cas de se passer de Thauvin qui est blessé et de Payet qui sortait quand même d'un gros match. Donc je veux bien qu'on me dise oui, mais on prépare Bilbao puis après il y a l'Olympico. Mais c'était quand même culotté de sa part de faire ça. Mais on se rend compte que
c'est un savant mélange
équipe,
parce que
le mélange, il est que c'est juste une équipe. C'est juste une équipe parce que il faut pas qu'il y en ait un qui baisse de rine, parce que ils font 25 très bonnes premières minutes et puis après ils disparaissent. Après c'est le néant.
Et
là ça rentre dans tous les sens. Le milieu, il y a plus de Gustavo, il y a plus rien. Et puis tout d'un coup, en seconde période, dans les 25, ils se réveillent et là ils ont cette faculté à s'arracher, la pugnacité dont ils ont. Mais c'est hallucinant.
Depuis le début de saison.
Mais et c'est pour ça que dès qu'il y en a un qui baisse.
C'est 13 matchs. Il marque en fin de
partie. Il marche chaque fois. Oui, il marque toujours en fin de partie. Mais encore une fois, ils sont capables de s'arracher du début. Même s'ils ont un trou d'air, mais on voit que tout le monde passe à travers. Et puis après, ils se remettent en selle et ça redémarre. C'est assez hallucinant.
Heureusement qu'ils ont Mandanda dans les buts
juste,
d'ailleurs.
Deux choses. Alors, je suis d'accord effectivement avec vos propos, Annie, vos propos, Marc. On a senti une équipe et effectivement pas d'individualité dans cette équipe de l'OM. Après, pardon de dire comme ça, mais l'OM, depuis le début de la saison, face aux petits, est plutôt bon, hein, au final, contrairement à Lyon, par exemple. Et pardon de dire comme ça, mais Toulouse est un petite Ligue 1. Donc, heureusement,
c'est vrai que
Marseille a réussi à le faire.
On est 10 jours après les deux claques reçues à Paris. Oui. Et là, je regarde Dominique parce que c'est vrai que là, c'était malheureusement des tristes prestations.
Voilà, depuis l'arrivée de Rudy Garcia sur ce banc, on l'a eu face au gros. Lyon, Monaco, pareil, il n'y a eu qu'une seule victoire en Coupe de France face à Lyon, sinon que des défaites. Ou en tout cas,
le Lyon à l'aller, l'erreur de Mandanda, tu es un petit peu dur parce que si Mandanda fait pas cette boulette, il faut un gros match.
Voilà. C'est vrai, mais il y a eu des fêtes au final. Je veux dire, contre les petits, et il y a plus de petits, c'est tant mieux, on parlera de Lyon dans un instant.
Il y en a 19 en
Marseille réussit à le faire face aux petits, c'est tant mieux. Encore une fois, Toulouse n'est qu'un petit 17e, vous l'avez dit. Donc, heureusement que Marseille réussit à gagner face à Toulouse, qui a été existant pendant quoi? Un quart d'heure, 20 minutes, sinon, cette équipe de Toulouse.
Et pendant ce temps-là, il y avait un grand Mandanda.
Le test, ce sera dimanche, le test de la deuxième partie de saison. C'est là où Marseille va peut-être assurer sa troisième place en cas de victoire contre Lyon, parce qu'on voit mal les Lyonnais relégués à 8 points revenir sur eux. Ce sera ça le vrai test. C'est le match Marseille-Lyon de dimanche soir.
Dominique, est-ce qu'on peut d'ailleurs, avant de parler de Lyon, peut-on voir, selon vous, revenir, Marseille revenir sur le deuxième, c'est-à-dire sur Monaco, il y a 4 points d'écart.
On sait que
4 points, c'est pas beaucoup, mais en même temps, il reste 8 journées, si je me trompe pas.
C'est vraiment faisable.
Et il y a un PSG Monaco à venir.
Ouais, surtout que si, effectivement, Paris ne fausse pas le championnat, ce qui est parti pour, de pas le fausser, si Paris,
il y a que ça en même temps pour le PSG, je le rappelle.
Okay. Et logique, si par exemple, voilà, Paris bat Monaco, ça peut offrir des solutions à Marseille. Après, Marseille joue la Ligue Europa, est bien parti pour se qualifier contre Bilbao. Monaco n'a plus rien à jouer. Monaco va récupérer Falcao et on voit quand il est pas là, c'est Jovetic qui s'en occupe très très bien. Mmh. Après, en termes de comportement d'équipe, j'ai toujours trouvé que cette saison, depuis que Rudy Garcia a trouvé la formule après une défaite contre Rennes, j'ai toujours trouvé qu'il y avait plus de collectifs à Marseille qu'à Monaco. Monaco, c'est un peu paracoup, c'est un peu quand Jovetic est bon, quand Lemar revient de blessure, quand Rony Lopez veut bien sortir de sa boîte. Moi, je trouve qu'il y a plus une équipe à Marseille. Donc, pour moi, ces 4 points, ils sont rattrapables. Mais le calendrier peut jouer des tours à Marseille.
Dominique a raison sur ce point-là. Après, Monaco, sur les individualités, sont capables de vous faire très très mal. Quoi. C'est ça la différence. C'est ce que n'a pas Marseille. Parce que hier soir, si l'action, le second but, voilà, c'est une passe du milieu de terrain, Payet qui laisse passer entre les jambes, Mitro qui remet, ça déborde. Alors que Monaco, à tout moment, que ça soit Lemar, que ça soit Jovetic qui rentre, que ce soit Falcao, ils sont capables à tout moment de faire la différence. Même quand Lopez rentre, qui marque à la dernière minute, voilà, ils sont très bons. Je vois pas Marseille pouvoir inquiéter cette équipe monégasque. Qui surtout Marseille, il va falloir faire un choix à un moment donné, puisque si vraiment ils passent Bilbao, ça va être quand même très dur.
Vous arrivez après en quart. Et là, être en quart, là, ça commence à
titiller un petit peu.
Contre Lyon.
Pourquoi pas?
ce serait dommage.
Alors, c'est vrai. Oui, ça serait quand même bien de garder nos équipes.
Une finale Lyon-Monaco au stade de Lyon, de Lyon-Marseille, Lyon au stade de
Ne pas être sûr d'avoir un demi-finaliste que plutôt deux clubs éliminés en quart.
Ça tient,
c'est vrai que c'est un raisonnement, Dominique.
Je comprends, Dominique, que vous soyez étranger, puisque avec le PSG, vous ne tutoyez pas ces quarts de finale.
Oui, c'est un peu la Coupe de la Ligue de l'Europe.
Dominique, vous avez compris, vous êtes la cible. La cible de toutes les plaisanteries. Ces temps-ci, mais bon, on va essayer de vous épargner ça.
Je n'entraîne pas le PSG. Hein. Il y a certains guignols qui le font, mais c'est pas moi.
J'imagine. Oui, je sais. Je critique son coach.
Je crois que le PSG est parti pour souffrir pendant 3 mois, quelle que soit l'émission.
Jusqu'en septembre prochain.
Bon, en tout cas, on est donc à une semaine de l'Olympico, hein, comme on l'appelle en France, ce match entre Marseille, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Lyon qui n'a pas perdu, l'occasion surtout de maintenir l'écart qui le sépare donc de la troisième place, en gagnant aussi son match face à Caen, des pieds d'ailleurs de l'international burkinabé Bertrand Traoré. La fin peut-être d'une spirale négative, Olivier Pron. On était à Lyon, on a cumulé les défaites.
6 matchs sans victoire en Ligue 1.
Et on n'arrivait plus.
Victoire compliquée. On va dire, mais voilà, c'est bien aussi pour Bertrand Traoré parce que c'est son 7e but cette saison qu'il est présent. Lui aussi, il a un bon ratio. Il me semble que c'est 7 buts en 22 matchs. Je regarde Marc Libra, c'est très honnête pour une première saison pour
pas évidente pour lui dans les conditions.
Ouais, vraiment. Et puis finalement, voilà. Heureusement, tout ça est positif parce que ce qui est moins positif, c'est forcément la blessure de Nabil Fekir qui fait sa meilleure saison, qui se blesse au même genou, qui est celui
toujours
pour lequel
le même
il avait été opéré
droit.
En 2015. Il avait fait une chute contre Marseille, contre Paris, je crois qu'il se blesse. Il a été un petit temps sans jouer, il se refait mal là. Il y a une Coupe du Monde qui arrive, il y a beaucoup d'échéances pour ce club, notamment la Ligue Europa, on le rappelle, la finale
est à Lyon. Donc c'est un bel objectif. Et puis il y a la course à la troisième place. Bref, beaucoup de choses à venir. Il ne sera pas là, Nabil Fekir, dimanche. Il sera pas là pour le quart de finale retour de Ligue Europa.
À mon avis, il sera pas là pour un moment parce que on nous dit
on annonce trois semaines. Hein.
Arthroscopie.
Oui, mais ça fait déjà minimum. Ça fait déjà trois semaines qu'il ne joue pas. Donc ça fait un mois et demi. Après une arthroscopie, c'est très simple. On fait deux petits trous ou trois petits trous. On met une caméra. On va creuser, on nettoie.
Mais après, il va au Brésil, il faut voir. Faire tout ça ou pas
C'est télévisé.
Salim, juste sur cette équipe de Lyon.
Oui, l'analyse qu'on a eue il y a quelques instants concernant Marseille avec ce fameux calendrier, on peut l'avoir et même encore plus pour Lyon. Après le match aller, la victoire 1-0 à Moscou, vous avez un match retour, ce huitième de finale à venir dans quelques jours. Donc Lyon, avec cet objectif rêvé de finale à domicile, Lyon a 5 points de retard sur Marseille, mais également un potentiel quart de finale à venir, hein, s'il y a qualification face à Moscou. À un moment donné, Lyon va peut-être devoir davantage, on va dire, choisir clairement sa compétition et se dire peut-être qu'il y a des billes à mettre davantage sur la Ligue Europa que sur le championnat, encore, avec en plus
le match de dimanche les orientera aussi peut-être. Imaginez qu'ils gagnent à Marseille, ils reviennent à un point,
mais ce sera là encore plus compliqué, j'ai envie de dire, parce que vous revenez à deux points, mais en même temps vous avez un potentiel quart de finale de Ligue Europa. Vous choisissez quoi dans ces cas-là?
Deux compétitions quand même.
Ça paraît difficile au vu de la prestation hier. C'était un match où on s'est un petit peu ennuyé. Faut pas oublier qu'à la mi-temps, la plupart des supporters les ont sifflés.
Et comment a eu des occasions?
Traoré qui marque ce but, on l'a vu, il ne célèbre rien parce qu'il se fait railler tout le temps. Quand il sort, il a encore sifflé. Meilleur joueur, ça a été Mendy, qui est pour moi une révélation sur ce côté gauche qui a été très bon. Mais après, tout le reste, ça devient compliqué. Faut pas oublier qu'il y a une tête de Crivelli, Lopez qui la sort, parce qu'autrement, ça peut être 1-0. Et là, ça s'inverse. Donc attention, cette équipe de Lyon n'est pas du tout guérie.
Et encore une fois, face au petit, Lyon n'y arrive pas ou galère. C'est invraisemblable de voir ça.
Dominique.
Oui, Annie,
ceux
bonjour.
Qui sont...
On va parler du PSG maintenant, Dominique.
Ceux qui sont rassurés ce week-end en essayant d'oublier les déconvenus, on va dire, c'est les remplaçants, eux, parce qu'il y en a sur le banc qui voulaient montrer que ça allait. C'est ceux du Paris Saint-Germain, bien sûr. Ils se sont rachetés 5-0. Bon, c'est contre le dernier de Ligue 1, donc...
Il n'y a rien à tirer.
Alors Dominique, j'ai une autre question.
Ils sont pas déprimés, ils auraient pu complètement lâcher face à une équipe que j'avais vue à Marseille mettre 3 buts quand même, qui se procure des occasions, qui d'ailleurs s'en est procuré au début du match. Ça n'a pas été si simple que ça. Après Paris, ce sont des professionnels, ils peuvent pas se permettre de fausser le championnat. Imaginez que le 19e ou le 18e se disent, Metz vient gagner au Parc, c'est pas possible. Donc Paris est là pour ne pas fausser la compétition, améliorer les stats individuels. Nkunku s'est fait peut-être un nom ce week-end aux yeux de tout le monde. On se demande pourquoi il joue jamais en Ligue 1, par exemple. On se demande pourquoi il a pas le niveau d'habitude. Sans doute qu'il l'a, mais qu'il y a un entraîneur trop frileux pour faire tourner en coupe. Ou je sais pas, moi Nkunku, j'aurais voulu le voir dans d'autres compétitions, peut-être nationales. On le voit jamais. Juste... De même qu'on ne voit pas Ben Arfa, Lucas est parti. Il y a des joueurs comme ça.
Il y a des auditeurs qui nous demandent où est Ben Arfa. Donc
il y a des joueurs qui
il est payé sans bosser, sans travailler.
Il est un des 10 meilleurs salaires du club. Il est à 500 000 euros par mois brut et il ne joue jamais.
Ouais.
Donc c'est quand même une politique.
Il s'entraîne encore, non?
Il s'entraîne avec le groupe.
Hein. Il s'entraîne. Il est libre depuis le 1er janvier de signer où il veut. Mais là, il va finir à la fin de son contrat le 30 juin et signer dans un autre club.
Je suis taquin avec le Paris Saint-Germain. Alors malheureusement, de cette saison, on retirera au final que l'élimination en Ligue des Champions, malgré les autres titres potentiels. On en est à 144 buts, hein, toutes compétitions confondues, si je ne m'abuse.
Là, ils en ont mis 5.
C'est
5-0.
Un nombre invraisemblable. On a un club français qui a mis 144 buts, et encore, il y a encore plein de matchs. C'est une folie, ce qui se passe.
91 en 28 journées, 29 journées.
Mais c'est pas forcément le signe qu'on avait vu une équipe toute la saison. On a peut-être vu d'immenses stars comme Mbappé, comme Neymar, comme Cavani. On a vu de Drexler, des joueurs, mais moi, j'ai pas vu un collectif. Je me suis jamais dit, avant le par faire l'histoire, mais avant le match de Madrid, je me suis jamais dit, tiens, le Paris Saint-Germain fait preuve d'un collectif extraordinaire, j'ai l'impression de voir Manchester City. Non,
rien à voir. Solistes.
Voilà, beaucoup de solistes, donc c'est très bien de mettre des buts, c'est un peu la raison d'être, quand vous achetez 400 millions, deux attaquants, vous avez Cavani qui est déjà là, vous avez déjà Di Maria, tout ça, donc c'est bien de marquer des buts, c'est normal.
J'ai encore des questions au sujet du PSG, Dominique, alors on y revient. Vous restez dans la deuxième partie?
Bonjour.
Alors on se retrouve, chers auditeurs, dans la deuxième partie pour continuer à parler de Ligue 1 et d'Angleterre.
Au revoir.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
La suite de Radio Foot International sur RFI. Nous reprenons nos débats avec Dominique Sévrac, Marc Libra.
Bonjour Annie.
Avec Salim.
Bonjour Annie. Ah,
on va parler du PSG.
Bonjour,
quand même.
Bonjour messieurs. On va continuer à parler du PSG. Si vous étiez avec nous, on avait commencé et on continuait. Olivier Pron est toujours là lui aussi, même s'il a dit au revoir tout à l'heure. Finalement, il a décidé de rester à la mi-temps.
Parce qu'on a... L'élimination de Tottenham fait plaisir. Salim, j'ai l'impression qu'il est de bonne humeur. Hein. Pourtant, championnat anglais, bon.
Oui, championnat anglais, mais on va y venir. Dominique. Alors, on sait bien que depuis mardi soir 23h à peu près, beaucoup de choses...
Oui, 21h05, on avait... ou 21h45, on
avait compris au bout de 5 minutes. 21h25, on avait compris. Ouais, on s'est dit, bon, c'est mal barré. Il y a le fantôme de Neymar, comme ça, vous devez le voir, vous aussi, celui qui s'était fait prendre en photo au-dessus du stade avec la Tour Eiffel en point de mire. Bon, ben là, il y a juste son hologramme, peut-être, qui est là. À tel point que ça préoccupe tellement quand même les dirigeants du PSG, c'est confirmé que le président, monsieur Nasser Al Khelaifi, avec le directeur sportif, vont aller jusqu'au Brésil pour visiter la star et son pied.
C'est ce que j'ai lu sur le site internet de mon journal, donc je crois que c'est vrai. Et donc ça continue dans l'institution qui baisse son pantalon devant le joueur phare, puisque que le président, on a l'impression qu'ils sont convoqués.
Ou qui vont à Confesse.
Ouais, voilà. Donc, s'il vous plaît, Monsieur Neymar, on vient vous voir. Bon, on s'est tapé deux heures d'avion.
On vient tous ensemble.
Voilà, pour
ils
vous
vont
dire
prendre l'hélicoptère après, parce qu'il faut arriver jusqu'à la maison.
Vous dire que vous étiez important et qu'il faut pas partir, sinon notre projet il va exploser. Merci. Sinon le pied, oui, ça va. Bah super. Bon, on repart alors. Eh bah, ben très bien. Donc franchement, c'est hallucinant.
C'est terrible. Je me permets de prolonger le propos de Dominique. Vous avez utilisé le mot institution, enfin PSG. Vous imaginez un instant les fameuses institutions européennes, Real, Barça, Juventus, Bayern, United, les institutions Liverpool. Vous imaginez un instant ces équipes-là faire ce que le PSG va faire avec Nasser Al Khelaifi et Antero Henrique. Ce serait une humiliation suprême au final pour ces directions-là de faire ce genre de choses. Le PSG n'est au final donc pas du tout dans cette catégorie-là. Sportivement, bon, on l'a vu, mais même, j'ai envie de dire, en termes de prestige, c'est également le cas.
Ce qui est étonnant, Dominique, c'est que depuis justement mardi soir, il y a beaucoup d'analyses, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, l'institution est trop faible, il faut la renforcer et tout. Et on a l'impression qu'ils forcissent le trait pratiquement de continuer sur la même.
Après Neymar, Barcelone, c'est une grosse institution et Neymar quand même a réussi à partir contre 222 millions. Et donc Neymar, c'est quelqu'un un peu de spécial. C'est compliqué. Oui. Même Barcelone s'y est cassé les dents visiblement au bout de 4 ans, certes, mais on dit le PSG c'est pas l'équivalent du Real, c'est pas l'équivalent du Barça. Bah même le Barça, c'est.
Mais qu'est-ce qu'ils veulent pas lui proposer alors ces deux émissaires?
Ils veulent prendre la température aujourd'hui
sur un éventuel entraîneur.
Sur n'a pas de signe de la star. Elle ça veut pas dire qu'il va partir, mais elle ne sait pas.
On le voit sur Instagram, on le voit sur.
Ne sait pas s'il a envie de rester ou s'il a envie de partir. Donc elle vient un petit peu prendre la température. Elle a la vie du père, mais c'est jamais que le père. Rappelez-vous que
le père est agent aussi, il est son agent.
Gérard Piqué avait mis Sekeda, il reste, puis finalement le joueur était parti. Donc c'est pas parce que vous avez les proches que vous êtes mieux d'aller parler à Star. Moi, j'aurais préféré que moi le joueur vienne en France faire sa convalescence et travailler, que ça se passe en France plutôt que donner cette image d'aller voilà au Brésil comme ça prendre l'information. Mais c'est vrai que le joueur et l'entraîneur, ils vont faire un portrait robot pour voir si c'est compatible avec Neymar. Par exemple, aujourd'hui Conte et Neymar, c'est impossible qu'ils travaillent ensemble. Après, ils peuvent très bien être ensemble dans un même club, mais connaissant Conte, ou alors ça veut dire que Conte se renie, ou que Neymar se dit il me reste plus qu'un an. Bon, j'ai signé 5 ans, j'en aurais fait 2.
C'est bon.
Bon, c'est bon. Je peux pendant un an serrer les dents.
Est-ce qu'il peut fragiliser? Est-ce que d'une certaine façon, il fragilise le club selon vous finalement, Neymar qui est arrivé comme une grande.
Neymar, c'est forcément une bonne nouvelle qu'il vienne en Ligue 1, qu'il vienne à Paris. C'est forcément une bonne nouvelle pour le club. C'est un accélérateur de notoriété, marketing. Du point de vue marketing, ça vous fait venir des plus gros sponsors. Ça intéresse plus la.
Mais j'ai lu quelque part qu'ils n'ont signé aucun contrat de sponsoring depuis l'arrivée Neymar.
Oui, bon, mais c'est
normal.
Il faut le temps que ça se mette en place,
il faut que ça dure.
Oui, il faut que ça dure. Donc Neymar, ça serait jamais une mauvaise nouvelle marketing et sportive. Moi, j'ai entendu des gens dire le PSG sera plus collectif sans Neymar contre le Real Madrid.
Ça me paraît
complètement hallucinant de dire que le PSG ou n'importe quelle équipe, le Brésil, le Real Madrid
sera meilleur sans
Cristiano Ronaldo, sans Messi, sans.
On a vu le 7-1, c'était sans Neymar. Olivier.
C'est important aussi pour un journal comme celui pour lequel vous travaillez, le Parisien ou l'équipe vendent plus de journaux quand le PSG marche, quand le PSG fait parler de lui, quand le PSG a Neymar. La saison du PSG, pratiquement sportivement, elle s'est arrêtée mardi soir. On sait que le PSG sera champion et on peut imaginer que le PSG va gagner au moins une des deux coupes, si ce n'est les deux. Et donc il faut alimenter, j'imagine. C'est une forme de pression aussi chez vous ou pour les journalistes de l'équipe qui, tous les jours, tous les deux jours, alors on a vu la semaine dernière dans l'équipe, Cavani a envie de partir, on voit ce matin, chez vous. Mbappé, le malaise Mbappé, c'est voilà.
Nous, il y a un article, on est le seul quotidien français où il y a un article tous les jours sur le Paris Saint-Germain. C'est 25% la pagination annuelle du Parisien, elle est sur le PSG. Donc nous, que ça gagne ou ça gagne pas, voilà, on raconte ce qui se passe. Et puis malgré le 5-0, Mbappé a eu quand même plusieurs occasions.
Il doit mettre 5 de buts.
Voilà, et il est en ce moment en déveine devant il a un problème de confiance vis-à-vis devant le gardien. Là, c'était Kawashima. Il a quand même un problème. Donc, on est obligé de raconter aussi ce qui va pas. Et le principe, c'est les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Mais j'ai envie de dire, même si on est souvent dans l'actualité heureuse, on parle beaucoup de choses positives. Vous prenez toute la thématique avant PSG Real, le match retour. On était très positif sur Cavani. En l'absence de Neymar, on disait Cavani, Di Maria et Mbappé vont le faire. On a fait, voilà, pourquoi ces trois-là sont complémentaires. Tout ça. Bon, ça s'est pas révélé juste pendant le match, puisque l'attaque, elle était complètement atone, elle a pas joué ensemble. Mais il y a beaucoup, beaucoup de papiers positifs sur une saison et même dans la séquence actuelle.
Le fait que le scénario de mardi soit passé comme ça, mauvais scénario, change pas forcément la donne pour vous.
Ah non, les supporters, il y a quand même 35 000 personnes qui sont venues voir PSG Metz. Les gens se désintéressent pas du jour au lendemain du club parce que il a, pour la deuxième année de suite, pas franchi les huitièmes de finale. L'actualité du Paris Saint-Germain intéresse tout le monde. Alors évidemment, tout le monde veut savoir deux choses. Qui sera entraîneur? Est-ce que Neymar reste? Mais derrière tout ça, il y a aussi d'autres questions. Cavani, son avenir, c'est pas rien. Quand un joueur de cette dimension-là, qui vient de re-signer l'année dernière, à qui on a proposé le capitanat, dit à des proches qu'il veut partir, on est obligé d'en faire part, quoi. Et aujourd'hui, vous avez la rumeur Lewandowski qui pourrait venir le remplacer. Donc on est bien dans un... Voilà, on avait fait, avant le match aller, Thiago Silva, capitaine critiqué à l'intérieur du vestiaire. Bon, bah, 4 jours après, l'entraîneur le vire.
Du moment que Thomas Meunier reste.
Alors dans cette journée de championnat de France, malheureusement cette 29e journée, il y a eu des faits très lamentables qui se sont déroulés dans le nord de la France. C'était évidemment chez une équipe en perdition, les Dogs du LOSC qui pointent à la 19e position. Ils ont fait match nul contre Montpellier et c'était 1-1 et du coup, le spectre de la relégation ne s'est pas éloigné. Résultat, des spectateurs en furie qui descendent sur la pelouse et s'en prennent même aux joueurs.
Les forces de sécurité qui tentent de repousser les assauts des supporters qui ont envahi le terrain. Alors que là, les esprits se sont un petit peu calmés. Il y a quelques instants, des coups de poing volés de part et d'autre. Ce qu'on va retenir, c'est surtout les coups de pied lancés à l'encontre de Fodé Ballotouré, notamment lancés à l'encontre de Nicolas Pépé, pourtant buteur ou pourtant auteur d'un bon match ce soir. Inadmissible, inadmissible de la part des supporters qui finalement vont regagner leur virage.
Les commentaires de nos confrères de BeIN qui retransmettaient ce match. Et vous allez entendre maintenant, c'est le témoignage de l'international algérien Yacine Benzia qui raconte son point de vue, c'est-à-dire lui qui était sur la pelouse et qui voit arriver les supporters en furie.
On ne peut pas accepter le fait que des joueurs, des compatriotes de mon équipe ont été agressés. Ouais, et je pense que même si on comprend le mécontentement des supporters, il y a une limite à ne pas franchir. C'est une situation délicate pour tout le monde, pour nous aussi. On donne le maximum pour sortir de cette situation et on va tout faire avec ceux qui voudront nous encourager. On va tout faire et on va réussir à se maintenir.
Marc, ce genre de fait, on n'en voit pas souvent quand même sur une pelouse. Est-ce que on peut comprendre que des supporters soient en colère?
Ils peuvent être en colère, mais assis, ou alors ils se lèvent, ils crient, ils hurlent, ils insultent,
ils
s'isolent. Mais ils peuvent pas sauter. Si aujourd'hui on peut se permettre de faire ce genre de choses, ça devient catastrophique. Après, malheureusement, ça s'est passé durant la saison. Ça a été fait Bordeaux-Marseille, Marseille-Bordeaux-Marseille. Ça a été fait quand Fekir a levé son maillot. Et on nous dit quoi? C'est 15 000 euros. Mais la tribune, pendant deux matchs, vous ne venez pas. Bon, mais tant qu'on aura ce genre de dispositif, la Ligue nous dit on se réunit pas jeudi, mais jeudi prochain. Bah écoutez, continuez. Voilà, je ne sais pas ce qu'on attend, je ne sais pas ce qu'on veut voir sur un terrain,
puisque
là c'est très violent. Non, mais là c'est violent quand même. Les mecs, c'est trop violent. Les mecs arrivent pour les massacrer. Il faut arrêter. C'est un stade de football où il y a des enfants qui viennent avec leurs parents. C'est plus possible.
On peut être en colère, Lani. Ça fait partie de la liberté d'expression. On est dans un délit. Rentrer sur une pelouse, frapper des gens, c'est plus de la liberté d'expression, c'est plus de la liberté d'opinion, c'est délictuel.
C'était des menaces en plus.
C'est de la délinquance. Une semaine, on avait décrété l'union sacrée quand même. Visiblement, ça c'est. Pas compris le message. Malheureusement, Lille va être sanctionnée parce que vous pouvez pas.
Ils ont porté plainte, mais ça les dédouane pas de leur responsabilité.
Il y a une faille de sécurité. Une centaine rentrent sur la pelouse. Plus de sang. Il n'y a plus rien de sanctuarisé désormais dans le football, j'ai l'impression. Le terrain, normalement, c'est un endroit où le public ne peut pas aller, sauf un soir d'attentat où au Stade de France, on ouvre la pelouse et les gens descendent et viennent calmement essayer de voir ce qui se passe dans Paris. Mais sinon, le reste du temps, la pelouse est un sanctuaire, on n'a pas le droit d'y aller. Donc là, moi, j'espère que c'est un nouveau stade, le Stade Pierre-Mauroy. J'espère que la vidéosurveillance marche bien, qu'on va identifier les, alors vous me dites qu'ils sont plus de 100, les 200, les 300. Ça va prendre du temps. On va aller les chercher chez eux à 6h du matin.
Mais elle marche bien partout, Dominique. Elle a jamais été mise en place. Elle marche à Saint-Denis, à Bordeaux. On prend personne.
Les 200 seront peut-être pas pris, mais il va y avoir
une
cinquantaine d'interpellations à 6h du matin. Ça fait jamais plaisir. Mais c'est comme ça.
Il faut.
Mais comme vous avez fait une bêtise, et ben, vous allez la payer.
Salut. Et je me permets juste de regarder dans le rétro un instant. Lors de l'Euro 2016, lorsque certains de ces nouveaux stades avaient été mis en place, on parlait d'une organisation remarquable, vraiment, cet Euro 2016. Et regardez tous ces stades, au final. Lille, Saint-Etienne, on l'a évoqué. Enfin, tous ces stades, au final, il y a de graves soucis.
Sans grilles, hein. Est-ce qu'il faut remettre les grilles, ça veut dire?
Mais à un moment donné, il y a des graves soucis très régulièrement. On a voulu faire une communion autour de l'Euro 2016, etc. Mais regardez, au final, tout ce qui se passe aujourd'hui.
Le public de l'Euro n'est pas le même, hein.
Non, mais totalement.
Les publics gallois, irlandais sont sympas. Ils vont pas sur la pelouse.
Totalement.
C'est le public français qui a l'air bête.
Et justement, à un moment donné, il faut s'adapter peut-être parce que ce qu'on est peut-être en train d'attendre, c'est un mort, tout simplement, sur une pelouse.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chances qu'il ne se passe, que ça ne dégénère pas, hein, que les violences soient contenues très vite par les stadiers qui ont réussi à séparer les gens, mais c'est vrai que c'était compliqué. Marc, est-ce que vous avez déjà, vous, en tant qu'ancien joueur, vécu un tel moment des supporters en colère? Parce qu'à Marseille, on sait qu'il y a le sang chaud.
Ils sont chauds. Oui et non. Oui, parce que j'ai vécu ce genre d'engouement sur trois montées en première division à l'époque, où les gens rentrent par joie, par plaisir, pour communier avec nous.
Sur la pelouse aussi.
Sur la pelouse, hein. C'était d'une violence. Vous pouvez même pas vous imaginer comme ça fait peur.
Même pour même quand dans une ambiance positive.
La première fois au Vélodrome, je me fais prendre dans la foule. C'est-à-dire qu'ils sont tellement heureux, mais ça parle dans tous les sens. Vous êtes obligé de vous battre, de frapper. Vous avez la sécurité qui vous récupère, qui vous porte. Mais ça va à une vitesse et c'était de la joie. C'était de la joie. Attention, je précise bien.
Et l'année d'après,
L'année d'après, on remonte en première division parce qu'on nous avait empêchés. Je vous assure, Annie, je me suis préparé à sprinter pour partir. Je peux vous assurer. Et avec Toulouse, on joue le match de la montée, on gagne chez nous. Je suis assez loin, je suis vers le rond central quand l'arbitre y siffle et je pars en courant, mais je suis pris dans la foule et j'arrive à passer par rapport à la sécurité. Mais ça m'avait marqué et c'était de la joie. Alors imaginez.
C'est la meilleure course de ta carrière. Hein.
Comment?
C'est la meilleure course de ta carrière.
C'est là où j'étais le plus
content. C'est un super appel.
Ah ouais.
Dommage qu'il n'y ait pas de ballon.
Mais pour dire, c'était de la joie, mais c'était très violent. Donc j'imagine ce qu'ont dû vivre les joueurs. Et souvent, quand il y a ce genre de phénomène, je repense toujours à cette image-là où je suis à l'époque un gamin, je fais pas attention et ça vous rend dans tous les sens. Enfin voilà, des joueurs avaient été pris à partie, mais c'est la joie, ils sont contents.
Les mots sont clairs.
Là, les mecs,
on vient pour faire mal.
Les visages que l'on voit hier dans l'équipe, on voit des visages, c'est pas des mecs qui sont heureux. Non. On les voit. Donc ça, on a les images. On sait qui c'est.
C'est qu'ils assument aujourd'hui. Je les ai entendus sur des radios comme ça.
C'est sûr. Ouais.
Effectivement.
Et on les voit en garçon. Vient assumer. C'est-à-dire qu'il a fait un acte délictuel et il vient dire à la radio, bah oui, je suis content, c'est normal. Vous comprenez, on nous avait annoncé la 4e ou la 5e place. Le mec justifie ça. Donc, comme on lui a annoncé la 5e place, comme si c'était en plus le foot, donc Paris a annoncé la première, donc ils vont prendre la première, Monaco annonce la deuxième, donc voilà, donc Toulouse avait annoncé la 11e, bah Toulouse, s'ils sont pas 11e, on ira tuer les dirigeants. Mais c'est complètement lunaire, incroyable. Le gars, il assume. J'espère que c'est le premier qui va être interpellé par la police, parce qu'ils ont après avoir fait des actes, après les assumer comme ça.
On y reviendra sur ces violences dans les stades en Europe au cours du week-end. Juste un petit mot quand même, Salim. Il s'est passé une chose à peu près similaire dans le stade de West Ham durant le week-end. Eux, ils perdent 3-0 contre Burnley. Ouais. Et pareil, ils sont menacés de relégation. Et pareil, alors on peut pas appeler ça des supporters, mais des gens dans le public vont aussi sur la pelouse. Finalement, les supporters anglais d'ailleurs, là...
Il y avait eu Everton-Lyon avec un monsieur avec un bébé dans les bras.
Il a morflé.
Donc c'est pas l'apanage des Français.
Non, tout à fait. Non. Mais c'est vrai que le côté envahissement de terrain en Angleterre, en tout cas des supporters qui tentent de venir sur une pelouse, c'est extrêmement rare, notamment en Première Ligue. Mais là, c'est vrai que, alors oui, il y a des supporters qui sont mécontents depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois.
Oui, les résultats
de
West Ham sont
catastrophiques. Très bien. Là, il y a eu trois séquences. En fait, un supporter qui est en train sur la pelouse pour tenter de frapper le capitaine de West Ham, un autre qui a pris le poteau de corner. Imaginez un instant, vous voyez le poteau de corner, ça peut être potentiellement grave. Heureusement, c'est pour planter dans un rond central, allez comprendre pourquoi. Et puis d'autres supporters qui, eux, ont tout simplement insulté et lancé même des mini-objets sur les deux coprésidents qui ont dû partir du stade. C'est vrai que ces images extrêmement violentes. C'est vrai que ce stade aussi, où je parlais de sécurité il y a quelques instants pour les stades français, ce stade est très critiqué en Angleterre. Déjà la saison dernière, pour un West Ham-Chelsea en Coupe de la Ligue, il y avait eu beaucoup de violence autour du match. D'ailleurs, pour la prochaine rencontre, il devrait y avoir réduction de capacité très importante.
C'est le stade olympique, rappelons-le.
Et ça, et réduction importante du stade d'ailleurs. Et ces supporters, en revanche, ils ont été filmés. Et en Angleterre, on est beaucoup plus sévère. Ils vont être filmés. D'une part, ils seront bannis à vie du stade. Et d'autre part, West Ham a prévu de porter plainte. Il y aura aussi des sanctions délictuelles et autres.
Vous êtes vous-même supporter de West Ham.
Exactement. Je ne suis pas entré sur ce sujet.
Il y a une manière de s'exprimer aujourd'hui. On peut créer une page Facebook. Tout le monde peut avoir un compte Twitter.
Mais oui, sur Twitter, c'est fait pour ça.
La démocratisation de la parole, elle est partout. Donc que ces gens-là s'expriment. Aller verser leur haine sur les réseaux sociaux qui visiblement moi j'y suis pas mais c'est fait pour ça les réseaux sociaux il y a à peu près beaucoup de
essentiellement Twitter d'ailleurs c'est anonyme c'est facile
donc voilà qu'ils aillent faire ça plutôt qu'ils viennent embêter 40 000 personnes
qui partent du stade
parce qu'il y en a quand même 38 000 qui sont là pour voir un match et qui demandent rien
exactement. On va préciser que pour Lille c'est pas sûr qu'ils descendent encore non mais c'est ça c'est qu'ils
n'étaient
pas
les matchs ça va pas les aider
mais voilà
les pauvres joueurs quand ils vont retourner sur la pelouse ça sera peut-être pas simple alors revenons au terrain, plus précisément, le vrai terrain, celui où on joue et où un ballon roule. Salim, ce week-end, eh bien, c'était le derby, toujours très chaud, le derby rouge entre les Red Devils et les Reds. L'équipe de Manchester United a remporté le match face à l'attaque de feu, désespérément éteinte. Mané, Firmino, Salah, ils ont eu beaucoup de mal. Ils n'ont pas marqué, d'ailleurs, puisque le but attribué à Liverpool est un but contre son camp d'Eric Bailly.
Et, un beau but, en plus.
Qui a été très bon dans ce match.
C'est clair.
Vraiment, il a été
Manchester United a donc gagné sur le score de 2-1. Victoire logique.
Alors, je vais même corriger vos propos. Vous me dites que c'est United qui a gagné. Je vais même dire que c'est José Mourinho qui a gagné dans ce match. Tant tactiquement, notamment en première période, il a réussi à museler toute cette équipe de Liverpool. Autant défensivement, il avait mis... Alors, on parle souvent de bus quand on pense à José Mourinho. Mais c'était un bus qui était très intelligent.
Qui roulait.
Un double bus même extrêmement intelligent. Alors, on est revenu un peu à l'ancienne avec les longs ballons devant. Avec un Lukaku qui a été excellent et souvent critiqué dans les grands matchs.
Et bien ça faisait longtemps qu'il n'était pas resté aussi.
Exactement.
Bon.
Et bien là, il a été très bon avec en plus à ses côtés Marcus Rashford qui remplaçait lui Anthony Martial qui était blessé pour cette rencontre. Et Rashford, il a marqué des points en marquant ses deux buts justement. Lukaku, Rashford, à eux deux, ils ont tué cette équipe de Liverpool.
Et d'ailleurs, on va l'écouter, José Mourinho, parce qu'il y a quelque chose de très important cette semaine. C'est que l'équipe de Manchester United joue demain la continuation en Ligue des Champions parce qu'il y a une deuxième semaine de match de Ligue des Champions, Dominique. Et donc, Manchester United
pourquoi
pourrait
vous dites
peut-être...
cela Dominique
Paris qui joue
non mais parce que
y a Paris
c'était
qui
pas
joue
que
encore
la semaine
Paris pour recevoir le Real Madrid
Paris
le jeu de match ou pas
peut-être
joue
peut-être si vous voulez on peut essayer en tout cas demain soir c'est
ensemble ils y croient
Manchester United
Raymond plus grand
et ensemble ils n'ont pas gagné aussi malheureusement qui reçoivent Séville et justement José Mourinho il préfère se focaliser match après match sur les rencontres et voyons pourquoi il n'avait pas voulu exactement se projeter.
Dans le football moderne, vous devez vivre au jour le jour, semaine après semaine, match après match. Nous jouons ce mardi en Ligue des Champions. Si nous perdons contre le FC Séville, tout le monde oubliera ce qu'on a fait ces dernières semaines. C'est ça, le football moderne. Il faut vivre avec le présent. Alors c'est vrai, nous avons battu Chelsea, Arsenal, Tottenham. Mais les rencontres face à Séville et Brighton en FA Cup sont plus importantes que notre résultat face à Liverpool. Contre Liverpool, c'était un grand match. Un match face à un concurrent direct pour le top 4. Mais rien n'est encore fait. Il nous reste 8 matchs à jouer dans cette première ligue. Alors que face à Séville ou Brighton, ça passe ou ça casse.
Alors le jour, comme dit José Mourinho, c'est notamment eh bien, de jouer sans Paul Pogba, ce qui a été le cas et ce qui risque d'être le cas demain soir.
Et pardon de le dire comme ça pour tous les fans de Paul Pogba qui nous écoutent, mais sans Paul Pogba, ben, United, encore une fois, a été bon, voire par séquence, encore une
meilleur.
Fois, très bon.
C'est pas nouveau ça.
Mais c'est un fait, et il faut le dire à un moment donné. Lors du dernier match auquel il a participé, c'était face à Crystal Palace, il avait été catastrophique en première période, et Palace et plutôt United avaient réagi ensuite en seconde. Mais c'est vrai que sans Paul Pogba, on l'a vu là dans cette rencontre, il a été sans lui, United a été vraiment intéressant. Et qu'il soit pas là face à Séville, eh bien au final, est-ce vraiment un manque? On le saura, mais ce n'est pas certain.
Au match aller, il doit pas jouer, il est sur le banc et il rentre très vite parce que
c'est Herrera qui se blesse.
Herrera, 16e minute.
En ce moment, quand même, c'était avant sa blessure, c'était la guerre avec Mourinho quand même.
C'est ça. Alors même si on a eu l'impression que c'était un peu calmé justement entre les deux. D'ailleurs, hier, il y a une image dans les. Alors, comme on parlera de com ou autre, peu importe. Mais lorsque José Mourinho s'exprime donc au micro de certains journalistes, vous avez Paul Pogba qui est juste à côté, qui n'a pas participé à la rencontre et qui vient saluer José Mourinho. On voit toutes les caméras, les sourires entre les deux hommes. Ils se checkent. Ils se connaissent depuis 30 ans, on a l'impression. Bref, voilà, c'était sympa, évidemment, avec les caméras juste à côté.
Dominique.
Non, mais Salim disait la victoire tactique de Mourinho. Heureusement quand même, parce que comme il refuse le jeu, heureusement qu'il lui reste quand même des aptitudes tactiques, parce que comme il refuse le football avec le matos qu'il a, avec Alexis Sanchez et
Dominique,
compagnie.
Rémi sera en face de vous. Il sauterait à la gorge.
Heureusement que ça reste un grand tacticien et qu'il sait encore gagner des matchs là-dessus, parce que
mais on a tendance à l'oublier.
La raison d'être du football, c'est de jouer au foot et José Mourinho veut pas. Et alors, il veut pas. Alors, on peut se dire, il a une petite équipe, il a pas l'attaquant. Non, là, il a tout ce qu'il faut. Moi, c'est incompréhensible. Pour moi, je continuerai toute la saison, parce qu'il voilà en finale de Ligue des Champions, Manchester United. Je continuerai à pourfendre ce football-là.
Marc, est-ce que Manchester United, dans le championnat, est bien accroché à cette deuxième place? C'est eux, les dauphins de City?
Oui, pour l'instant, en tout cas,
L'instant, oui, mais est-ce que finalement, dans cette bagarre qui n'en finit pas?
Si c'est mérité sur l'ensemble de la saison, non. Non, pas du tout, puisque Tottenham, pour moi,
pratique... Mais c'est calculé, alors, par José Mourinho.
Non, mais c'est vrai qu'il y a un très très bon début de saison où Lukaku avait été en feu à l'époque, puisqu'il marquait but sur but. On a retrouvé Lukaku qui est capable de faire la différence, de conserver le ballon, de faire jouer. Rashford qui, lui, a profité de ces espaces-là pour aller marquer. Après, je pense que Rashford, sur cette première période, il est béni, parce que ce qui fait le premier but, c'est extraordinaire. Et je pense que Liverpool, ils les ont peut-être pas pris au sérieux. Ils se sont dit, allez, ça va aller, ça va rouler. On est sur notre dynamique, on a Salah qui fait la différence, et puis dès qu'il y a 2-3 joueurs qui sont un peu moins bien, ben on l'a vu, ils sont pénalisés de suite.
Pour terminer ce Radio Foot, eh bien, allez, une petite récréation que nous offre Thomas de Saint-Léger. Bonjour Thomas.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Allez, séquence souvenir.
L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Ah, quel pied!
Qui n'a pas ce refrain dans un coin de la tête, n'est-ce pas? Alors ça ne nous rajeunit pas, mais ça ne nous empêche pas de se rappeler de délicieux moments. 20 ans après, le résumé du livre de Dumas dit 20 ans après, il court, chevauche et ferraille toujours sur les routes de France. Finalement, ça peut presque s'appliquer aux champions du monde de 98 que vous avez vu ce matin, Thomas. Ils sont toujours là, prêts à rentrer sur le terrain.
Ouais, ils courent peut-être un petit peu moins vite, mais ils vont jouer le 12 juin prochain à côté de Paris, l'U Arena de Nanterre, un match
alors
amical.
Alors ça sera 20 ans moins un mois, parce qu'on s'en souvient, la victoire
voilà,
c'était le 12 juillet.
Mais
c'est juste avant le début de la Coupe du Monde. C'est voilà. Sans doute, évidemment.
Donc,
pour ça.
Pour certains, ça va être compliqué pendant la Coupe du Monde. D'ailleurs, Didier Deschamps ne sera pas là, évidemment, puisqu'il sera déjà
occupé.
Il sera déjà en partance pour la Russie. Mais donc, ce match amical, France 98 contre une sélection mondiale, a priori, de l'époque aussi, c'est évidemment pour marquer le coup de ces 20 ans, pour se rappeler des bons souvenirs. Youri Djorkaeff, il était là ce matin, il parlait d'une petite réunion de famille. Ce sera à l'U Arena, ça c'est le côté modernité. On parle de nostalgie, mais ce sera
à Nanterre,
une salle
dans une salle fermée.
Salle fermée, ultra moderne, avec on l'imagine une animation, son, lumière pour un spectacle un petit peu à l'américaine. Voilà, ce sera devant 30 000 personnes. En tout cas, il y aura 30 000 billets mis en place si vous êtes intéressé à Annie sans vente à partir de la semaine prochaine. Mais l'idée, voilà, c'est de se retrouver, de repartager cette communion de l'été 98, 20 ans après.
Et alors, du coup, eh bien, même s'ils sont pour la plupart devenus consultants et qu'on les côtoie au micro ou dans les studios, eh bien, ils s'entraînent. Et on a encore des gens de 50 ans, Marc, hein, on peut encore
courir.
J'ai
pas 50 ans, Annie, ça va pas encore.
Non, mais Annie, mais vexé, là.
Je vous demande de me parler des gens qui s'entretiennent.
Écoutez, je m'entretiens comme je veux. Voilà.
On va aller écouter cette fois Michel Delisarazu.
Il y a quand même la volonté de faire un match sérieux. On se chauffe un peu déjà pour savoir où on en est au niveau de la préparation. Lolo a commencé à courir. Moi, j'ai recommencé à faire du vélo. On a l'âge qu'on a. Le temps passe pour tout le monde. Mais je pense que les gens ne nous attendent pas non plus que sur ça. Je pense qu'ils ont envie de nous voir sourire, de nous voir heureux, de partager ça avec nous, de fêter ça avec nous.
Fêter ça avec eux. Il faudra donc être un des 30 000 qui aura un billet, c'est ça?
Vous voulez des noms aussi, Annie, j'imagine, sur les joueurs. Donc, les 22, moins Deschamps, a priori, plus les 6 réservistes. En tout cas, ils sont invités. Ah. Aimé Jacquet, sympa. Hein.
Aimé Jacquet. Ça, c'est le Laurent Blanc. Il y tient depuis le début, ça.
C'est vrai, il l'a dit d'ailleurs. Il l'a redit ce matin. Donc, Aimé Jacquet pour le staff. Et en face. Et en face, ça, pour l'instant. Pas de nom, on rêve secrètement de Ronaldo. Alors voilà, chacun s'y met à coup de petits textos. Ils ont côtoyé tous des joueurs en Espagne, en Italie, en Angleterre. Ils cherchent évidemment à les faire venir. J'ai demandé à Youri Djorkaeff s'il y aurait des joueurs de sélection africaine de l'époque. Il m'a parlé de JJ Okocha. Il m'a aussi parlé de George Weah, dont l'agenda, je pense, risque d'être un petit peu chargé. Ouais. Et aussi, il jouait pas à l'époque, en tout cas pas en sélection ivoirienne, de Didier Drogba. En tout cas, c'est envisagé. On verra au fur et à mesure qui sera invité dans cette sélection mondiale.
Ça sera une fête autour du football. En tout cas, Dominique, un parallèle entre 98 et 2018?
Un parallèle, on espère que Deschamps sera le sélectionneur qui amènera l'équipe de France au premier sacre mondial depuis 98. En 2006, on pouvait pas gagner, il y avait Raymond Domenech comme sélectionneur, donc c'était pas possible, ça on le savait avant, fallait me le demander. Donc évidemment que là, c'est possible avec la génération Griezmann, Mbappé, les petits jeunes. Après, c'est dommage que c'est pas lié au Stade de France. Là, c'est à la U
C'était
Arena.
En France et là, le stade est à côté. L'idée, je suis d'accord avec vous.
Que ça soit le stade à du sacre.
C'est un peu bizarre.
C'est un peu bizarre.
Bon. C'est la fin de ce premier Radio Foot de la semaine. Merci à tous et merci à ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission. À demain.